Europe 1. Écoutez le monde changer. Les grandes voix d'Europe 1. 10h, 11h, Sébastien Guyot.
Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce débat des grandes voix historiques d'Europe 1. Charles Villeneuve, Catherine Ney, Michel Cotta, Gérard Carrérou, bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Au sommaire, aujourd'hui, comme il l'avait annoncé fin avril, Emmanuel Macron a donc débuté cette semaine son Tour de France dans le Lot.
Ce que je veux faire dès le début du mois de juin, c'est reprendre mon bâton de pèlerin. Moi, je veux cet été pouvoir reprendre le pouls du pays et par une espèce de grande concertation préparer ce plan de relance.
Il y avait eu la Grande Marche en 2016, l'itinérance mémoriale en 2018. Voici donc venu le pèlerinage laïque en 2022. Emmanuel Macron va-t-il finir avec le maillot jaune sur les épaules ou dans la voiture balai ? Les grandes voix, on attend votre analyse avec impatience. Mais avant la présidentielle, il y a les régionales. Dans 15 jours, le RN, en capacité de remporter au moins une région, faut-il un front républicain ?
Mon intuition, c'est que le front républicain a quand même pris... Je vais pas dire que le Front Républicain est mort, mais presque.
Le Front Républicain est-il mort, comme le laisse entendre Stéphane Séjourné, conseiller politique d'Emmanuel Macron ? Là encore, j'attends votre expertise, les grandes voix. Et puis, dans la dernière partie de ce débat, nous reviendrons sur le début du procès des harceleurs de la jeune Mila.
La peur change de camp.
La peur.
Et plus nombreux on sera à l'ouvrir, plus on sera fort.
La peur change de camp, dit Mila. Voilà pour le programme. Installez-vous confortablement, le débat des grandes voix, c'est parti. C'est donc à Saint-Cyr-la-Popie, magnifique village du Lot, qu'Emmanuel Macron a entamé cette semaine son Tour de France pour, dit-il, prendre le pouls du pays, comprendre ce qui est accepté en France, ce qui ne l'est pas. Le chef de l'État doit donc effectuer 10 déplacements d'ici mi-juillet. Gérard Carrérou, 40% des Français estiment que c'est une bonne chose, selon un sondage Odoxa, mais 56% y voient une campagne déguisée en vue de sa réélection. C'est votre avis ?
Non. Non, je vais vous dire, ce n'est pas mon avis. Moi, je suis d'abord...
Vous surprenez Michel Cotta.
Oui,
ben
oui. Attendez, on peut avoir un esprit libre et indépendant à une époque où ce n'est pas toujours de mise.
Allez-y, Gérard.
Alors, d'abord, ce que je veux dire, c'est que j'aime les Tours de France. J'aime le Tour de France. C'est magnifique. Même quand je suis... Souvent, je suis aux États-Unis à l'époque du Tour de France. Je le regarde sur les chaînes américaines. C'est tellement beau. Et deuxièmement, comment voulez-vous que je n'aime pas ce Tour de France qui commence dans une petite ville magnifique du Lot, alors que mon grand-père est du Lot. Mon grand-père qui a fait la guerre de 14, qui a eu sa croix de guerre en 14, c'est un homme
c'est
du Lot.
De l'Aveyron.
Donc, et il a épousé une fille de l'Aveyron, c'est le département à côté.
On s'éloigne un petit peu quand même de cette campagne d'Emmanuel Macron.
Vous saurez tout, je reviens. Alors je reviens. On lui reproche de faire campagne, et même une double campagne, c'est-à-dire de faire campagne pour les régionales et en même temps un peu pour la présidentielle d'après. Bon, tous les présidents, c'est un peu dans la nature de la Ve République, tous les présidents l'ont fait. Je ne serai pas sur ce sujet un grincheux. Mais ce que je constate, c'est très bien qu'il veuille retrouver le fil avec les Français. Ce que je constate, et ça c'est terrible pour le président de la République, c'est qu'il est tout seul. Et il est obligé, c'est un président dont la solitude m'effraie, parce qu'il est obligé de faire tout le boulot. Normalement, les campagnes comme ça, locales ou régionales, c'est, il y a des ténors qui viennent pour... Eh bien là, c'est le président qui va faire le boulot tout seul. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de parti, ou il a un parti qui n'arrive pas à s'installer, et c'est quelque part dramatique. Voilà ce que
Catherine
je voulais dire.
Ney.
Oui, en plus, les 5 ministres, il les a mis dans le... faire dans campagne le nord, dans le Nord, donc
dans
ils ne sont pas
France,
ailleurs.
Bon.
Non, mais il fait campagne, mais
notamment.
Il doit accélérer sa campagne en France parce qu'il ne la connaît pas. La grande différence entre ses prédécesseurs, que ce soit François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, c'est qu'avant d'être président, ils ont déjà fait des tours de France. Ils connaissaient les élus locaux, ils connaissaient les chefs-lieux de canton, les sous-chefs-lieux de canton. Ils connaissent tout, on leur parlait d'un village. Ah oui, j'y suis allé, j'y suis pas allé. Ils connaissent Mitterrand, avant d'être président, comme premier secrétaire, mais il a vraiment couché chez les militants, mené une vie de chien. Et il aimait la France, il en connaissait le goût, les odeurs. Pareil pour Chirac qui adorait ça. Et Nicolas Sarkozy, mais il faisait 2 déplacements par semaine en province. Donc il aimait ça. Donc qu'il le fasse aujourd'hui,
donc,
moi je trouve que c'est normal.
Ça ne suffit pas de le dire dans Zadig son amour
non,
de la France.
Non, mais parce qu'il ne la connaît pas. Il cite 5 départements, il ne la connaît pas. Donc il fait connaissance avec la France. Donc moi ça ne me choque pas. Mais moi, où je me dis que pour le président, ce qui va être compliqué, et il est seul, c'est qu'à partir de janvier, il va devoir faire... Il est président de l'Europe. Donc, quand
la
on voit
de l'Union européenne, la France à partir
quand
de janvier
on voit
prochain,
la vie qu'avait menée Nicolas Sarkozy, qui lui avait présidé l'Union européenne, le deuxième semestre 2008, il était déjà président. Mmh. Il n'était jamais en France. Alors, soit il est un président de l'Union européenne qui mérite ce nom, hein, et il n'est jamais là, soit il n'est que candidat. Il ne peut pas être en France.
Alors
c'est ça le problème
de Macron. Tour de France, le Tour d'Europe. Tour de France, en tout cas, il est critiqué, à droite notamment, Xavier Bertrand, qui dit « Comment le pays est-il dirigé pendant ce temps-là ?»
Ça me fait rire. Est-ce qu'on Michel peut dire Cotard. Comment les Hauts-de-France sont dirigés pendant ce temps-là Non, c'est un Tour de France d'un président. Et Xavier Bertrand le sait mieux que personne, parce qu'il a vu Jacques Chirac combien 7 Tours de France, au moins dans sa vie. Donc c'est de la... polémique.
Oui, Gabriel Attal lui répond d'ailleurs que le président va pas rester dans son bureau.
Ce qui est intéressant, moi aussi je suis comme Gérard, je pense qu'il a tout à fait raison de faire ce Tour de France, que c'est le moment, qu'il pourra peut-être pas le faire plus tard, comme dit Catherine, mais surtout c'est ce qu'il y dit. Mmh. Alors, et au fond, moi ce que j'ai retenu de ces paroles, c'est le moment n'est pas venu de dire si je me présente ou pas. Alors tout le monde rigole en se disant Oui, tous les présidents disent ça, puis après ils se présentent. Mais il dit quand même, j'aurai peut-être des décisions à prendre qui m'empêcheront de le faire. Mmh. On va revenir sur les retraites.
Sur la réforme des retraites après la pause, oui.
Ce qu'il dit aussi, c'est que la France est dans une période de reconstruction. Et il joue beaucoup, je trouve, sur quand les gens lui disent « Oui, mais on a trop de taxes ». Il dit « Oui, mais on vous a beaucoup aidé pendant cette pandémie ». C'est-à-dire qu'il essaye d'utiliser... son regain de popularité. Il est quand même à 38% maintenant dans les sondages. Oui. Finalement, la sortie de la pandémie, si elle se passe bien, joue pour lui. Il faut tourner la page, commencer autre chose, et il annonce quand même qu'il fera des réformes.
Avant de parler des réformes, Michel Cotard, Charles Villeneuve, le fait qu'il parte comme ça, faire un tour de France, Saint-Cyr-la-Popie dans le Lot, puis Marseille, puis Amiens sur les terres des Hauts-de-France, est-ce que c'est un problème, sachant qu'il n'y a pas de droit de réserve pour le président de la République en campagne, alors qu'il y a une campagne régionale ?
Non, c'est l'usage. Oui. De toute façon, tous ses prédécesseurs l'ont fait. De Gaulle, d'ailleurs, il marche sur les traces du général de Gaulle, parce qu'il a souvent commencé par le Lot, de Gaulle. Mmh. Bon, enfin, peu importe. Moi, je pense qu'il est dans l'obligation de faire ce Tour de France, parce qu'il a transformé ses régionales en une épreuve de vérité. Ne serait-ce que par ses manœuvres, aussi bien celles des Hauts-de-France, on reviendra là-dessus, qu'en Provence-Côte d'Azur. Et donc, partant de là, pour s'éviter, si vous voulez, un 27 juin... dans la soirée difficile, comme ça a été pour les municipales, pour lui et son parti, il a intérêt de toute façon à faire ce Tour de France. Bien évidemment, il fait une campagne électorale, mais elle est normale. Tous ses prédécesseurs l'ont fait, tous, indéniablement. Et donc, pour lui, évidemment, on sait que c'est plutôt un offensif. Hein, c'est comme un minotaure, il lui faut toujours une réforme, de toute façon, pour le nourrir.
Alors justement,
et là, on y reviendra aussi.
On va y revenir. On marque une courte pause et on parle justement de cette réforme des retraites. Il a dit que rien n'était exclu, mais que la réforme des retraites en l'état ne verrait pas le jour. On en parle tout de suite après cette petite pause. À tout de suite.
Europe 1, Sébastien Guyot.
En charmante compagnie avec Michel Cotard, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou pour ce débat des grandes voix consacré pour cette première partie au Tour de France d'Emmanuel Macron entamé cette semaine dans le Lot et au cours duquel il a évoqué un sujet explosif, la réforme des retraites.
Je ne pense pas que la réforme qui était initialement envisagée puisse être reprise en l'état, je vais être franc avec vous. Parce que je pense qu'elle était très ambitieuse, extrêmement complexe et du coup elle était porteuse aussi d'inquiétude, il faut bien le reconnaître, être lucide sur les... la manière dont le pays l'a vécu. Je pense que le faire maintenant, ce serait ne pas prendre en compte le fait qu'il y a déjà beaucoup de peur et de sujets à reprendre. Donc c'est trop tôt pour vous répondre. En tout cas, ça ne sera pas la même et rien n'est exclu.
Rien n'est exclu, dit le chef de l'État, Charles Villeneuve. C'est un enterrement déguisé, oui ou non ?
Écoutez, je sais qu'il s'est entretenu avec le Premier ministre qui a passé cette nuit, la nuit dernière, à bord du Charles de Gaulle, le porte-avions. Et qu'il a incité à catapulter une réforme des retraites différente de la précédente auquel il avait renoncé, rappelons-nous. Moi, je pensais, sincèrement, je suis surpris. Je pensais qu'il allait plutôt jouer le président protecteur plutôt que le président réformateur. Et maintenant, il veut être à l'offensive pour terminer son mandat sur une réforme cruciale pour les générations à venir et pour les finances du pays. Mais il n'empêche que la précédente, rappelez-vous, c'était déroulée dans le cadre d'une paralysie du pays assez importante avec des syndicats qui n'en voulait pas.
L'ADN réformiste d'Emmanuel Macron va l'emporter sur la peur de remettre la rue, enfin le peuple dans la rue contre la réforme des retraites, Michel Cotta?
Oui, moi je crois qu'il surveille son personnage, comme beaucoup de présidents de la République. Il surveille son personnage. Son personnage est un personnage de réformateur. Et laisser tomber en bout de course, c'est effectivement une tentation, hein. Ce serait une tentation de dire, et d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale par exemple dit que on ferait bien de remettre tout ça au quinquennat suivant. Mais moi je pense qu'il tiendra là-dessus, qu'il tiendra sur une réforme effectivement différente et que cette fois, enfin on dit toujours ça hein, d'ailleurs avant cette réforme de retraite, il a une partie de la population contre lui, pour lui, en disant, oui, c'est vrai, il faut travailler plus, la population vieillit, etc.
Et plus longtemps.
Malheureusement, effectivement, les syndicats qui ont déjà commencé.
Fait savoir qu'ils manifesteraient.
Mais, enfin, ce qui est important là-dedans, c'est quand même le fait qu'il ne renonce pas à ce pourquoi il a été élu. Et au fond, ce sera presque la seule
réforme de son
grande réforme puisque le chômage ça n'a pas eu lieu, il y a des lois etc. Mais c'est vrai que il attachera son nom à cette réforme là en la changeant s'il y arrive.
Sachant que nos confrères du Parisien ce matin avancent l'idée d'un abandon du système à points rejeté par les syndicats, mais d'un allongement du départ à la retraite à 64 ans. Gérard Carillon.
Oui, alors sur le principe, je suis assez d'accord avec Michel. Je pense que pour un président qui est à 10 mois de la grande échéance de l'élection, renoncer et dire c'est fini, il n'y aura pas de réforme de la retraite, c'est quelque part s'infliger à soi-même un désaveu. Donc
mais
il va
le
faire.
Il ne sera pas voté avant la présidentielle.
Non, je sais bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de nous présenter quelque chose qui sera humanisé et qui sera en fait voté, qui sera destiné à être voté lors d'un deuxième mandat pour lui, s'il est réélu, ou par un autre éventuellement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait à choper? Souvenons-nous quand même que ce qu'il y avait à choper, c'était effectivement la résistance dans la rue populaire, et puis aussi, effectivement, une forme de détermination du Premier ministre Édouard Philippe à ne pas céder sur ce qu'on appelait le paramétrique, c'est-à-dire, en fait, travailler un peu plus ou pas.
Et combien ça coûtait.
Donc, le paramétrique, c'est-à-dire le coût, et effectivement, le travail plus, c'est ça qui avait fait capoter le premier projet. Là, je pense qu'il va renoncer en partie à la réforme globale et il va nous faire quand même du paramétrique, mais c'est-à-dire financer, travailler quelques trimestres de plus pour pouvoir financer. Et en même temps, il va ajouter quelque chose qui permet de ressembler à ce qu'il avait dit au début. C'est-à-dire qu'il va humaniser une réforme qui n'était pas passée.
Et puis il va la simplifier. Il va la simplifier, surtout.
D'abord, il faut trouver le bon ministre qui vende bien cette réforme très compliquée.
Hein bon. Mais c'est le premier ministre.
Oui, mais là, pour l'instant, il a quelque chose...
Oui,
c'est drôle de l'appeler sur un bateau pour lui dire, comme s'il ne s'était pas mis d'accord avant. Mais bon, moi, je trouve que il a quelque chose de positif à annoncer, c'est le plan de relance, où il va y avoir européen, où il va y avoir beaucoup d'argent qui va permettre de faire quelque chose. Alors peut-être que lier quelque chose de positif comme ça pour les Français, mais à venir, hein, ce n'est pas pour tout de suite, et une réforme à venir, mais qu'il ne peut annoncer, qu'il ne peut être voté, qu'après, s'il est réélu. Donc ça ne mange pas de pain. Ou il est battu et elle ne se fait pas, ou il est réélu, elle se fera peut-être. Hein. Bon, donc il va continuer. Mais beaucoup de ses amis lui disent « Attention, le pays, il est convalescent. Il est en train de se dire qu'il reprendra le travail. La moitié disent « On continuera. » Voilà. Ils ont un rapport au travail qui n'est pas celui de se dire « On va travailler à 64 ans. » Et leur dire, alors qu'ils sont encore fatigués par le Covid et tout ça, « Vous allez travailler 64 ans. » Je ne sais pas. Si franchement, on dit qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, on n'attrape pas beaucoup d'électeurs.
Moi, j'abonde justement par rapport à ce que vient de dire Catherine, parce que le pays a quand même traversé deux grandes crises, celle des gilets jaunes et la crise sanitaire. Et c'est vrai que c'est très courageux de relancer, mais manifestement, l'immobilisme, pour lui, n'est pas une action. Et donc, il veut finir sur une action. Et ça rejoint le raisonnement de Gérard. Indéniablement, de toute façon, c'est une action qui ne sera pas terminée, qui ne sera pas finie, qui ne sera pas ronde. parce qu'elle ne peut l'être qu'avec un vote, évidemment, des deux assemblées.
Et il est prêt à ça, Michel Cotta, parce qu'il a 40% d'opinion favorable. Il se dit que c'est un socle suffisant pour...
Je ne pense pas seulement. D'abord, il a 40%, c'est un socle, mais il a surtout l'adhésion de 56% des Français sur le fait qu'on doit travailler plus longtemps. Parce que... Et alors, ce qui m'a étonné, d'ailleurs, c'est que dans cette... tournée de Saint-Cyr la Popie, pour une des premières fois, il a redit en public, en France, on ne travaille pas assez. Mmh. C'est-à-dire qu'il a repris, au fond, les thèmes du début, et moi, je suis absolument sûr que c'est quelqu'un qui veut finir, au fond, comme il a commencé, en essayant de tourner la page du Covid, si elle se tourne, hein, parce qu'on n'est jamais sûr, mais la France convalescente, au contraire, vous avez raison de dire que la France est convalescente, mais d'une certaine façon, elle est peut-être prête à faire autre chose, à oublier, à tourner la page et à se dire, bon, effectivement, il y a des problèmes
sérieux. Il y a un facteur positif, d'ailleurs, je pense, Michel, et tu seras sans doute d'accord avec moi, c'est qu'on ne peut pas imaginer, je crois, en tout cas, moi, je n'imagine pas, que les syndicats, à commencer par la CGT, qui avait quand même mené un peu la danse lors de la première version de la retraite, seront en situation de lancer un grand mouvement social à 10 mois d'une élection présidentielle. Donc, et comme l'opinion, entre-temps, a réfléchi un petit peu, elle sait bien, les gens savent bien qu'on vit un peu plus longtemps et que de toute façon, et que ça a été fait 2 ou 3 fois déjà, qu'il faudra donner quelques trimestres de plus à travailler, je pense que le risque social d'une explosion est bien moindre qu'il ne le fut lors de la première réforme.
Tu as raison de le dire, parce que la CGT qui a lancé une manif il n'y a pas longtemps à Paris, ça s'est très mal passé pour elle, parce que les Black Blocs sont arrivés, ont tout cassé et ont même cassé la figure des CGT. Parce que maintenant, la CGT, si elle veut lancer une grande manif, eh bien, elle n'a plus comme avant les gros bras de la CGT qui empêchaient les débordements. Et maintenant, elle est fragilisée par cette perte de militants qu'elle n'a plus, et lancer un grand mouvement social, elle sait qu'il peut déborder dans la violence et qu'elle en sera tenue pour responsable.
Alors, donc, ça a beaucoup changé. Les Black Blocs, quoi. De toute façon, la CGT a perdu des élections.
La CFDT, qui avait été leader pendant la première campagne sur les retraites, disait, moi je me souviens d'une interview de Laurent Berger dans Match, qui disait « Un intrus s'est glissé dans le débat, c'est l'équilibre budgétaire. » Et bien, quand on peut dire une bêtise pareille, je veux dire merci pour le syndicat réformiste.
Alors, y aura-t-il un mouvement social ? Y aura-t-il une réforme des retraites ? Y aura-t-il une conférence sociale d'ici juillet ? Nous allons suivre cela. Avant la présidentielle aussi, il y a les régionales dans 15 jours. Le RN peut-il remporter une ou plusieurs régions ? La stratégie du Front Républicain est-elle morte ? On va en parler dans un instant. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. Sébastien Guyot.
Avec un deuxième débat consacré au régional, c'est dans 15 jours, hein, le premier tour, le 20 juin. Le RN est en position favorable dans plusieurs régions. Avant de débattre sur l'intérêt ou non d'un front républicain, je voudrais qu'on parle d'abord de ces ministres candidats. Vous le disiez tout à l'heure, Catherine, il y en a au moins 5 qui sont partis dans les Hauts-de-France, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin notamment. Et pourtant, dans les sondages, Michel Cotta, ça n'a quasiment aucun effet sur la liste La République En Marche.
Et même moi, je pense que ça a un effet contraire.
Ben
je pense que quand on envoie un bataillon, quand on envoie un bataillon comme ça, et un bataillon un peu en fin de course, puisque la campagne avait commencé avant, je crois que ça ne sert à rien, quel que soit le talent d'Éric Dupond-Moretti, qui se fait très plaisir en faisant campagne et en parlant. Mais je crois qu'au contraire, ça fait de Xavier Bertrand, au fond, l'ennemi numéro un, et pas le Rassemblement national. Le Rassemblement national, tout le monde l'a combattu. Tandis que là, alors, au fond, en plus, ça pose une question importante au niveau de l'élection. C'est si Dupond-Moretti et la bande des cinq arrivent à faire décoller la liste à 11 ou 12%,
ce qui est le dernier sondage qui a été donné cette semaine, 12% pour la liste de Laurent Pietraszewski.
Il y aura le problème, ils devront alors savoir ce qu'ils font pour le deuxième tour.
Est-ce qu'on se maintient ou pas ?
Voilà. S'ils font moins de 10, évidemment, ils ne sont pas confrontés à cette interrogation. Mais ce sera très intéressant, d'ailleurs, de voir ce qu'ils vont faire. Je les vois mal se maintenir en quadrangulaire contre le Front National.
Catherine Ney.
Non, mais il est possible que Éric Dupond-Moretti fasse un bon score là où il est candidat. Mais croire que parce qu'il est à Maubeuge, Il est né à Maubeuge, dans le Nord. Il va avoir une influence dans le Pas-de-Calais, où le Rassemblement national fait ses meilleurs scores. Ça, vraiment, en disant, je vais booster dehors le Rassemblement national, dont on sait très bien que le Pas-de-Calais, qui vote pour le Rassemblement national, c'est tous les anciens ouvriers qui, enfin beaucoup, la majorité, qui votaient jadis pour le Parti communiste. Donc, il n'a aucune influence. Alors, si vraiment, grâce à lui, on passe de 10 à 12, eh ben, il pourra dire qu'il a servi à quelque chose.
Alors, Charles Villeneuve, puis Gérard Carrérou, sur la stratégie dans les Hauts-de-France, on l'a vu, elle diffère un peu dans les PACA.
Non, mais je veux dire quelque chose sur la stratégie dans les Hauts-de-France. Parce que je crois que l'erreur tactique qui a consisté à envoyer 5 ministres, elle s'explique très bien. Monsieur Macron, président de la République, mène une double campagne en même temps. Il fait une campagne pour les régionales, pour aider son camp, et il fait une campagne nationale pour la présidentielle. Et du même coup, il s'est dit, bonne idée, génial, j'ai un bélier qui s'appelle Dupond-Moretti qui va me flinguer tous les jours et du matin jusqu'au soir, le Front National, et c'est très bon pour la campagne d'après. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, et que le bélier, là, non seulement ne fonctionne pas sur le plan local, c'est-à-dire sur le plan régional, mais on n'est pas sûr du tout que ça n'hérite pas les gens de voir le garde des Sceaux dans une période de grande insécurité. Donc je pense que
d'ailleurs, on lui a dit, vous feriez mieux d'être dans votre ministère.
C'est une vraie fausse manœuvre. Et que c'est la deuxième, parce que la première fausse manœuvre, et on en parlera juste maintenant sans doute, c'est celle de PACA qui a été un fiasco de la première seconde à aujourd'hui.
Charles Villeneuve. La cellule politique de l'Élysée a été interloquée par le sondage de l'IFOP fiducial sur 1373 personnes électeurs inscrites sur les listes et qui donne au second tour le meilleur barrage au Front National. Ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est Xavier Bertrand, 60-40 contre 54-46. Et là, de toute façon, le président de la République a un œil là-dessus. C'est la raison pour laquelle, de toute façon, il a envoyé aussi toute cette meute qui a le vent en face et pas le vent en poupe pour l'instant. C'est ce que disent les sondages.
Parce que Xavier Bertrand a dit qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle s'il perdait les régionales.
Bien sûr, parce qu'il ne veut pas d'alliance au second tour avec personne.
C'est-à-dire, pour reprendre ce que dit Gérard, Emmanuel Macron n'est pas le seul à faire deux campagnes. Xavier Bertrand, il en fait deux aussi.
Oui.
Hein, il en fait deux parallèles, un pour être élu dans le Nord. Et entre nous, les sondages le montrent quand même, en tous les cas, y compris en cas de cadangulaire, il arrive en tête. Et vraiment, il faudrait vraiment que Sébastien Chenu, son concurrent, RN, fasse un bond dans l'intervalle pour que ça soit menacé. Et donc, cette première campagne entraîne la deuxième.
La situation...
Donc chacun, dans le Nord, ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, il y a deux doubles campagnes.
La situation est un peu différente dans le Sud, où pour le coup, Thierry Mariani caracole en tête dans les sondages. Il est donné même à 43% lors d'un dernier sondage cette semaine, ce qui est plus que ce qu'avait obtenu Marion Maréchal-Le Pen en 2015, où elle était à 40%. Et là se pose la stratégie du Front républicain. Faut-il un Front républicain ? C'est ce dont on va débattre dans un instant après une nouvelle pause. A tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h. Sébastien Guyot.
Avec cette question, quelle stratégie adopter pour empêcher le Rassemblement National de diriger une région en France ? Le Front républicain est une règle absolue, a notamment rappelé cette semaine Anne Hidalgo, la maire de Paris. Et pourtant, écoutez, et vous réagissez juste après, ce que disait sur Europe 1 Stanislas Guérini cette semaine, le patron des marcheurs semble prendre ses distances.
Au moment des élections municipales, j'avais posé une consigne à 6 mois du premier tour en disant « je demande à tous nos candidats de se désister de manière automatique ». Bien, j'ai tiré quelques enseignements de cela. J'ai vu que le Rassemblement National même utilisait parfois ce type d'argument pour nous faire croire qu'ils étaient anti-système contre le système. Eh bien, moi, ce que je dis, c'est respectons les électeurs.
Pour le dire autrement, est-ce que le Front républicain est mort ou presque, comme l'a affirmé Stéphane Séjourné cette semaine, le conseiller politique d'Emmanuel
Macron ?
Il
a vécu dans sa forme traditionnelle. Sa forme traditionnelle depuis 20 ans. Pourquoi ? Parce que ça consistait à dire, au deuxième tour, on fait tous barrage. Au front, donc on vote pour celui qui est le mieux placé pour faire barrage au front. Ça supposait quoi ? Ça supposait deux choses. Une gauche forte, capable effectivement d'imposer une discipline à ses troupes. Il y avait la discipline républicaine qui a fonctionné sous Mitterrand et longtemps après. Et puis une droite dirigée par un chef qui était capable aussi de faire appliquer. Aujourd'hui, les deux choses n'existent plus. Il n'y a plus cette gauche forte est pétri de discipline. Il y a une gauche un peu déboussolée et qui va dans tous les sens. Et on a une droite qui n'est pas dirigée parce qu'elle n'a pas de chef. À partir de là, je ne vois pas comment il peut y avoir. Alors, il peut y avoir des esquisses ici ou là. Mais par exemple, je prends un seul exemple, j'ai fini. En PACA, je ne crois qu'on peut appeler tous les réflexes républicains de trucs de deuxième tour. Ça ne fonctionnera pas. S'il y a un mouvement fort au premier tour en faveur de Mariani, il sera élu au deuxième tour.
Oui, c'est Michel Cotta. Est-ce que le Front républicain est un effet
Il y a eu des coups de canif. Le Front républicain a subi des coups de canif successifs. Hein, au début, il n'y avait pas un écart. Personne, tout le monde l'appliquait. Et puis, au bout des temps, maintenant, au fond, Emmanuel, la personnalité même d'Emmanuel Macron et sa position politique qui change tout. Gérard a raison de dire que il y avait toute une droite, toute une gauche unie qui, de temps en temps, acceptait de voter pour la droite pour barrer le Front National. Mais aujourd'hui, effectivement, cette gauche est très hostile à Emmanuel Macron. Mmh. Donc, on voit très bien que c'est dans ses rangs, au contraire, qu'il y aura beaucoup de refus de se reporter. Et sur la droite, elle est en assez mauvais état et en état d'éclatement pour que, de toute façon, aucune consigne ne passe.
Charles Villeneuve, le champ de... C'est, Thierry Mariani dit que c'est le champ du signe de parti qui empêche les habitants de voter pour faire triompher leurs idées.
Oui, mais ça, c'est son rôle de le dire. Si vous voulez, c'est la situation à PACA qui est la plus intéressante sur ce plan-là, sur le Front républicain. Parce que ceux qui sont en position d'être les faiseurs de rois en Provence-Côte d'Azur, c'est la liste socialiste. C'est
comme
la
elle
liste
l'a été il y a 5 ans.
C'est, absolument. Elle s'était retirée. De toute façon, pour
accepter de n'avoir aucun
le
élu.
Le maintien. Oui.
Dans les Hauts-de-France
si
aussi.
Terminer,
hein. Dans les
Hauts-de-France si je peux terminer.
Aussi. Oui.
Charles Villeneuve, puis Catherine Ney.
Bon. C'est que, si vous voulez, le leader de la liste de gauche, qui rassemble PS et les Verts, a dit de toute façon qu'il n'était pas question de se retirer parce qu'il voulait une présence dans les instances au deuxième tour. Bon. Cela étant, ce sera une décision collective parce qu'évidemment, les Verts et les socialistes et le PS auront leur mot à dire. Ça n'est pas certain. Mais un front républicain ne se constitue pas au dernier moment. En réalité, c'est une machine extrêmement précise qui est constituée d'une négociation auparavant, très minutieuse, et évidemment un accord avec les différents partenaires pour se retirer. Et donc, il semble bien que cette fois-ci, la liste donc reine pour ce retrait, c'est-à-dire la liste de gauche, ne veuille pas, pour l'instant en tout cas, se retirer.
Catherine Ney.
Oui, aux dernières élections dans PACA, finalement, le score de Christian Estrosi avait été assez bas. Il avait 26%. Été de 26%, pas plus. Et celui de Maréchal, Marion Maréchal, de 40,63 ou quelque chose.
Absolument.
Donc, qui a fait élire Estrosi ?
Christophe Castaner.
C'est Christophe Castaner, qui était le leader de la gauche. Et auquel Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire, avait demandé de se retirer, c'est-à-dire de n'avoir aucun élu. C'était, on se faisait harakiri pour sauver, voilà, pour empêcher le Front National.
Alors, est-ce que la solution, Michel Cotta, c'est de passer d'un Front républicain à ce que Stéphane Séjourné appelle un rassemblement républicain avec des fusions un petit peu hybrides entre les deux tours.
Oui, mais ce qui change aussi, parce que là, on n'en parle pas, mais ce qui change aussi, c'est la situation de la droite. Cette droite républicaine, elle est un peu coincée, on la sent coincée pour le moment, entre d'un côté certains qui regardent quand même du côté du Front National, et c'est pas Pelletier qui dira le contraire, c'est quand même le numéro 2 du parti qui a dit, le parti républicain qui a dit qu'après tout, il se sentait assez proche des thèses
de Robert Ménard.
Bon, de Béziers, donc il y a d'un côté ça, et de l'autre, des gens qui, au contraire, veulent garder une ligne républicaine de LR. Et dans ce parti éclaté, donner une consigne de vote, c'est pratiquement impossible.
Enfin, moi, je trouve que ce qui est plus important, c'est que le réflexe de la priorité absolue contre le Rassemblement national a disparu, au moins, est très détendu. D'ailleurs, c'est vrai que la droite n'en souffle mot, la gauche est aux abonnés absents, et la Macronie, on fusionne au forceps pour compromettre le rival. C'est ça, exactement. Voilà, donc il n'y a réussite, pas de stratégie d'ensemble.
C'est la réussite de Marine Le Pen. C'est en ça où Marine Le Pen s'est dédiabolisée. Il a dédiabolisé, et surtout celui de son candidat, Mariani, qui était un ministre de Sarkozy, etc., hein, offre un visage tout à fait plus rassurant.
C'est le laboratoire, si vous voulez, le PACA, c'est le laboratoire d'une nouvelle approche du Front National. Effectivement, le choix de Mariani, c'est ça qui fait la victoire. Parce que
c'est les débauches, dans une situation c'est le débauchage.
Qui fait la victoire.
Oui.
La victoire
c'est le coefficient personnel
dans les sondages,
aussi
dans les sondages. Dans les sondages, entendons-nous bien, les gens n'ont pas voté.
On l'a dit d'ailleurs souvent ici.
Mais effectivement, le coefficient qui fait peur à personne, Mariani, c'est un bébé Chirac qui en plus a été ministre de Sarkozy. Il est absolument c'est le gendre rêvé, si vous voulez, pour Marine Le Pen. Si j'ose dire, pour gagner une élection. Et c'est pour ça.
Et s'il a accepté de se présenter, c'est parce qu'il pense que Marine Le Pen va gagner. Hein.
Oui, mais je veux dire, c'est là que la valeur de cette démonstration peut avoir une incidence nationale, parce qu'au-delà de la victoire éventuelle qui peut arriver de Mariani, donc en PACA, et vous imaginez les titres de la presse du lendemain, si effectivement cette stratégie-là permet au Front National de se hisser à la victoire. Parce que c'est, on va dire, ben oui, il ne reste plus. Alors, on dira,
Gérard,
je sais ce qu'on dira.
Il n'y
a plus que
titre,
Marine Le Pen. Il n'y a plus
titre.
Que Marine Le Pen. Le seul moyen de freiner l'ascension du Front National, pour l'instant, c'est encore la présence de Marine Le Pen à la tête de la liste pour les présidentielles.
Non, mais il y a un double affichage. Le risque va vers un double affichage. Les Hauts de France et PACA.
Et les Hauts de France, où c'était aussi un ancien de la droite, Sébastien Chenu, qui porte la tête de liste
et puis,
Rassemblement
national. La politique
national.
De débauchage a été régulièrement faite dans tous les départements. Hein.
On change de sujet dans un instant pour notre dernier débat. On évoquera l'affaire Mila et le procès de la parole libérée. À tout de suite.
Europe 1, Sébastien Guyot.
Dernière ligne droite de ce débat des grandes voix en compagnie de Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Dans un instant, on va parler de l'affaire Mila. Juste un mot avant cela de Stéphane Séjourné qui a parlé à la fois du Front Républicain qui était mort ou presque, mais qui a également demandé est-ce qu'on décompte le temps de parole de certains éditorialistes à la télévision. Et ça vous fait réagir
Oui, ça fait réagir parce que Stéphane Séjourné, c'est pas n'importe qui. Non seulement il est le président des députés européens, macronistes au Parlement européen, mais aussi le conseiller politique spécial d'Emmanuel Macron. Mmh. Ça veut dire qu'il est en relation totale avec lui. Et ça signifie quoi ? Qu'est-ce qu'il vise ? C'est CNews, c'est Pro, c'est Zemmour qui font des voix et qui sont des propagandistes, croit-il, pour le Rassemblement national. Donc c'est à ces gens-là, parce qu'ils ont un rôle politique qui pourrait être nocif à Macron, qui voudraient réduire leur temps de parole. Alors qu'on peut dire que dans le service public, certaines antennes sont ouvertement militantes à gauche, mais ça ne gêne pas Macron puisque la gauche est indépendante. Mais là, comme là, dès qu'une chaîne puisse faire propagande de Rassemblement national, enfin ce qu'il croit, bien là, il faut leur couper la parole.
Alors, mon expérience de régulateur il y a longtemps m'a montré que régulièrement, les hommes politiques demandaient ça à la veille d'une campagne électorale. Bien sûr, ils demandent qu'on décompte les éditorialistes et régulièrement, les éditorialistes éclatent de rire parce que ils savent que la liberté de la presse, quand même.
Michel, on aurait éclaté de rire de la même manière. Et tu as raison. Il y en a d'autres qui l'ont demandé avant. Oui. La seule chose qui crée ce débat, c'est que ce monsieur n'est pas n'importe qui. Mais et ce n'est pas un anonyme. C'est le conseiller spécial politique du président de la République qui vient clairement de l'UNEF et du Parti Socialiste et qui dit tout simplement, parce que sa proposition c'est ça, il y a trop de gens ayant des opinions de droite anti-Macron qui s'expriment actuellement sur un certain nombre de médias, notamment CNews, à laquelle d'ailleurs, moi je suis partie prenante, j'y vais toutes les semaines. Mais donc, je ferme la parenthèse. Il dit donc qu'il faut, pour résoudre le problème, on va décompter le temps de ces gens qui pensent à droite et qui le disent. On va le décompter, on va mettre ça dans le même tonneau que celui des politiques de droite.
C'est impossible à faire.
Non, c'est impossible à faire, mais c'est dévastateur. C'est le camp du bien, une fois de plus, qui va nous apprendre à quoi penser.
C'est intéressant d'avoir le point de vue de l'ancienne présidente de l'autorité de l'audiovisuel.
Ils l'ont tous fait, y compris leur proche conseiller.
Les grandes voix, on va parler de l'affaire Mila à présent et l'ouverture cette semaine du procès de 13 de ces harceleurs à Paris. 13 personnes qu'il avait insultées, harcelées sur les réseaux sociaux et menacées de mort après ses propos polémiques sur l'islam, on les réécoute.
Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Il n'y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci, au revoir.
Et au procès jeudi, son avocat Richard Malka, l'avocat historique de Charlie Hebdo, a rappelé, Charles Villeneuve, quel était finalement le visage de la liberté d'expression aujourd'hui.
Non, mais que ce procès se soit tenu, c'est déjà un succès. C'est une première étape qui montre qu'enfin, on est responsable de ses propos, de ses injures proférées sur le net, notamment.
Plus de 100 000 messages,
hein, faut-il le rappeler. Et que la force publique ait mis les moyens pour justement identifier la plupart de ses auteurs. 100 000 messages, elle a reçu 100 000 messages avec des promesses de d'écartèlement, de Samuel Paty pour évoquer la décapitation de ce professeur, rappelons-nous, etc., etc. Vous savez comment elle vit à l'heure actuelle dans un studio avec une garde rapprochée. Absolument. De policiers qui sont fournis par le service de protection des hautes personnalités, etc.
Elle ne va plus
etc.
à l'école. Absolument.
Bon, enfin, mais là où il faut se féliciter, c'est que le droit a rattrapé la technique. Et c'est ça qui est important, si vous voulez. Sauf que, moi, je considère, si vous voulez, que je l'ai dit, ce procès est un succès, c'est déjà une première étape, mais on a identifié surtout des lampistes, parce qu'il y a beaucoup d'associations islamistes qui font partie juste de ce troupeau d'injures, de ces messages.
Oui, ce ne sont que 13 personnes, bon. Vous avez raison, Charles Villeneuve, de le souligner.
Bon,
10
alors, cela étant,
femmes.
Les réquisitions sont
Monsieur
sévères.
Monsieur et Madame tout le monde. Hein.
2 ans de prison ferme au minimum et 3 ans au maximum.
Ça, c'est
ce sont des
c'est
réquisitions, c'est un signe, on verra si ce signe sera donné aussi. Par le jugement.
Oui, les vrais débats.
Parce que c'est le jugement qui est à la hauteur des réquisitions.
Ce qui est important, c'est que l'anonymat ne soit pas permis dans ces réseaux sociaux. Parce qu'on s'aperçoit quand même qu'on colporte de la haine, surtout quand on ne dit pas son nom. Donc moi, ça me paraît très important pour toutes les autres déclarations qui suivraient. Mais alors, d'une manière, pardon, ça n'a peut-être rien à voir. Moi, j'ai été absolument surprise par le caractère incroyablement sexuel des réponses données à cette jeune femme. Alors c'est vrai qu'elle n'avait pas pris de précautions. C'est vrai qu'elle n'avait pas pris de précautions elle-même, mais alors je trouve les crimes dont on la menace, les répressions dont on la menace, c'est vraiment uniquement des répressions sexuelles. Donc c'est quand même il y a un aspect cinglé dans tout ça.
Alors après, Mila est intervenue en disant que la peur avait changé de camp. On l'a entendu tout à l'heure, Gérard Carrérou. Vous avez ce sentiment également ?
Non, je n'ai pas ce sentiment, malheureusement. Je suis comme Charles, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait eu ce procès. Je regrette qu'il n'y ait eu que 13 qui aient été chopés et qui soient rattrapés par la loi. J'aurais souhaité que beaucoup d'autres qui sont dans les associations extrémistes le soient aussi. Mais simplement, ce qui fait peine et ce qui est dangereux, c'est que beaucoup de et on le voit à travers ces horribles choses qui ont été dites sur les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes Français d'origine musulmane ou musulman, je veux dire d'origine maghrébine par exemple, confondent dans leur mental le droit au blasphème, qui est un droit dans notre République, avec l'idée du respect des autres et du racisme. C'est-à-dire qu'ils disent à blasphémer, c'est un acte de racisme à notre égard.
Alors,
il faut arriver à faire la séparation, et c'est pas facile, entre la France, on a le droit de blasphémer, y compris le prophète Mahomet, mais ça ne veut pas dire qu'on méprise et qu'on a un disrespect, un manque de respect
oui, mais
à l'égard des musulmans.
Gérard, c'est le rôle de l'enseignement.
Absolument.
Alors, est-ce que c'est fait dans le système éducatif? Je ne le crois pas.
On rappellera
néanmoins que... Et moi, je peux juste ajouter une chose, c'est que j'ai été étonnée que les féministes se soient aussi peu mobilisés pour Mila.
Et on rappellera juste d'un mot que parmi les 13 prévenus, il y avait à la fois des musulmans, des chrétiens, des hommes, des femmes, de gauche, de droite, et que c'était un peu monsieur et madame tout le monde. Merci à vous les grandes voix, merci pour ces débats toujours passionnants que vous pouvez retrouver en podcast sur europe1.fr. Merci à Jean-Luc Arblade à la réalisation de cette émission. Merci à Capucine Patouillet qui m'aide précieusement à la préparer.